Bonjour chers auditeurs, au micro Catherine Mann pour l'émission Chemin de foi, qui vient vous inviter à voyager à la suite de quelques grands témoins de la spiritualité chrétienne. Et à tout seigneur, tout honneur, j'ai voulu vous parler d'abord de celui qui eut un chemin tout à fait extraordinaire, puisqu'il fut choisi par Jésus-Christ ressuscité pour annoncer la foi en monde païen, c'est-à-dire Paul de Tarse, Saint Paul. Lors de la précédente émission, nous avons abordé le moment dramatique où Paul, obéissant à l'Esprit-Saint, décide d'abandonner son activité missionnaire. Il revient sur ses pas pour retourner à Jérusalem et y affronter le destin terrible qui l'attend là-bas. Nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres le récit déchirant des adieux qu'il fait aux communautés chrétiennes, partout, celles qu'il avait fondées, celles qu'il avait visitées, et qu'il confie maintenant à Dieu directement et à sa protection. Sur ce chemin de retour, nous le voyons maintenant faire une halte dans la ville de Césarée, où il s'arrête quelques jours dans la maison du diacre Philippe. C'est là qu'un prophète nommé Agabus vient pour annoncer l'avenir qui attend Paul. Je vous lis, c'est assez étonnant. Le livre des Actes, versets 10-14 dans le chapitre 21. Il arriva un prophète de Judée nommé Agabus. Venant nous trouver, il prit la ceinture de Paul. Avec elle s'attacha les pieds et les mains et déclara. Voici ce que dit l'Esprit-Saint. Celui à qui appartient cette ceinture, voilà comment à Jérusalem les Juifs l'attacheront et le livreront aux mains des païens. À ces mots, nous et les frères de la ville, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il nous répondit, « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ? Je suis prêt, moi, non seulement à être lié, mais à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Et comme il ne se laissait pas convaincre, nous n'avons pas insisté, disant « Que la volonté du Seigneur soit faite. » Voilà. Donc Paul est informé, mais il est aussi déterminé à affronter l'hostilité des autorités juives. Il est prêt à assumer son sort, quel qu'il soit. Retrouvons-le maintenant à Jérusalem, où il rejoint la communauté chrétienne parce qu'il apporte aussi une collecte qu'il a faite dans toutes les autres églises au passage pour aider celle de Jérusalem qui était très pauvre. Et puis il commence à leur raconter tout ce qu'il avait accompli durant sa mission chez les païens. Mais la réaction de la communauté, c'est qu'on lui suggère plutôt de faire profil bas devant la communauté juive de Jérusalem, qui est très puissante et surtout très remontée contre l'activité missionnaire de Paul, qui leur paraît être une trahison de la religion d'Israël. Paul accepte le conseil et se rend au temple pour y accomplir les rites de purification et des offrandes pour témoigner devant tous les Juifs de sa fidélité à la loi de Moïse. Mais cela ne va servir strictement à rien. Dans le temple, la foule s'agite et se révolte contre la présence de Paul, jusqu'à attirer en masse la population de Jérusalem. Alors évidemment, on va se saisir de Paul pour le traîner hors du temple et tenter de le mettre à mort. Alors, vous savez certainement que l'occupation romaine à Jérusalem faisait régner la Pax Romana, c'est-à-dire l'ordre et la discipline. Donc, dès qu'il y a du tumulte, l'armée sort. Et ce tumulte autour de Paul fait venir les soldats pour ramener l'ordre public. Je vous lis cet épisode tel qu'il est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 21. On cherchait à le tuer. Quand cette nouvelle parvint aux tribuns de la cohorte, tout Jérusalem est sans dessus-dessous. » Il rassembla immédiatement les soldats et les centurions et fit charger la foule. À la vue du tribun et des soldats, on cessa de frapper Paul. S'approchant, le tribun se saisit alors de lui et ordonna de le lier avec des chaînes. Puis, il voulut savoir qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, chacun criait autre chose que son voisin. Et comme le tribun ne pouvait obtenir aucun renseignement certain à cause de ce brouhaha, il donna l'ordre d'emmener Paul dans la forteresse. Quand ce dernier fut sur les marches de l'escalier, les soldats durent le porter à cause de la violence de la foule, car le peuple tout entier le suivait en criant « À mort !» Voilà, quelle ambiance, hein, surtout quel formidable contraste entre les marques d'affection des communautés chrétiennes envers Paul quand il leur faisait ses adieux et l'effrayante haine dont fait preuve la communauté juive envers lui. On ne peut pas, enfin pour moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il est d'abord accueilli comme un roi, et puis rapidement tout se retourne dans un déferlement de violence, et il est mis à mort. Mais Paul, lui, n'est pas accusé comme Jésus de blasphème, puisque Jésus, on l'accusait surtout de se prendre pour Dieu. Au contraire, Paul est considéré comme un juif, mais renégat, qui met en danger le judaïsme parce qu'il relativise l'importance de la loi et qu'il met l'accent surtout sur la foi au Christ. Enfin bref, la foule est déchaînée, mais une foule est très facilement manipulée par des rumeurs, hein. Et il circule beaucoup de rumeurs. L'une d'elles, c'est que Paul aurait fait entrer des Grecs dans le temple. Voilà, ce qui est évidemment pour les Juifs une terrible profanation, mais que certainement jamais Paul n'a fait cela. Alors Dieu sait quelles autres fake news, comme on dit aujourd'hui, ont été colportées. Tout le monde est enragé et les Romains vont devoir sauver Paul du lynchage et le mettre à l'abri pour essayer de comprendre de quoi il est vraiment coupable. Alors, déjà, il faut se dire que les Romains avaient une idée préconçue. Ils l'avaient pris pour un Égyptien qui avait soulevé une révolte contre Rome avec des sicaires, avec 4000 sicaires. Donc, c'est pas ça. On lui dit « Ah bon, c'est pas ça, la confusion règne ». Mais Paul va essayer de se servir de la situation. C'est toujours ce qu'il va faire, d'ailleurs. Et il va demander à prendre la parole devant la foule pour s'expliquer. Voilà, donc il reçoit l'autorisation, il sort sur les marches pour présenter une longue plaidoirie pendant laquelle il va d'abord se présenter lui-même, raconter sa vie. Comme il est juif sincère et militant, puis il va résumer toute l'histoire de sa conversion au Christ, qu'il considère être le vrai Messie d'Israël, et bien sûr présenter la mission qu'il a reçue du ressuscité pour aller évangéliser les nations païennes. C'est là un petit résumé d'un discours extrêmement long de Paul, pendant lequel tous, Romains comme Juifs, se sont calmés et ont écouté en silence. Mais à peine s'arrête-t-il de parler que les cris des Juifs ont repris de plus belle. Saint Luc, dans les Actes, nous dit qu'il criait « Qu'on débarrasse la terre d'un tel individu, il ne doit pas rester vivant. » Voilà, donc les paroles de Paul ont plutôt excité la haine de ceux qui, décidément, ne veulent pas accueillir le message chrétien. Les Romains, par contre, eux, ils n'ont toujours rien compris au problème. Ils décident donc d'incarcérer Paul dans la forteresse Antonia et, pour obtenir plus d'explications, de lui appliquer le fouet.
Thank you.
On allait donc fouetter Paul quand celui-ci dit doucement au soldat : un citoyen romain qui n'a même pas été jugé, avez-vous le droit de lui appliquer le fouet ? Oh, en disant cela, Paul sait très bien ce qu'il va déclencher comme réaction. Car véritable citoyen romain, et à ce titre, il bénéficiait de protections légales. Alors, je vous lis la suite dans le livre des Actes, chapitre 22. À ces mots, le centurion alla trouver le tribun pour le mettre au courant. Qu'allais-tu faire, l'homme est citoyen romain ? Le tribun revint donc demander à Paul, « Dis-moi, vraiment, tu es citoyen romain ?»« Oui, » dit Paul. Le tribun reprit, « Moi, j'ai dû payer une forte somme pour obtenir ce droit. »« Et moi, » dit Paul, « je le tiens de naissance. » Ceux qui allaient le mettre à la question le laissèrent donc immédiatement. Quant au tribun, il avait pris peur en découvrant que c'était un citoyen romain qu'il gardait enchaîné. Voilà, le citoyen romain, c'est, il n'y en a pas beaucoup, hein, surtout de naissance. C'est un privilège. Hein. Alors on imagine sans peine que le tribun, un certain Claudius Lysias, était bien embêté. Il risquait gros en contrevenant à la loi de Rome. Et pourtant, il devait aussi essayer d'éviter une émeute à Jérusalem. Alors voilà, qu'est-ce qu'il allait faire de Paul ? Il réfléchit toute la nuit et le lendemain, il décide de faire comparaître Paul devant le Sanhédrin, l'Assemblée législative d'Israël, pour essayer de régler le problème au sein même du judaïsme. Paul va devoir présenter à nouveau une plaidoirie. Et ça commence mal. La première phrase qu'il dit est « Frère, c'est avec une conscience sans aucun reproche que je me suis conduit envers Dieu jusqu'à ce jour. » Il n'a pas fini sa phrase qu'il reçoit immédiatement des coups sur la bouche, ce qui est le châtiment imposé au menteur. On voit donc que l'auditoire lui est a priori hostile et sans complaisance. Mais ça n'empêche pas Paul de continuer, hein, avec assurance, mais surtout avec habileté. Parce que, voilà. Ensuite, il dit, « Frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est pour notre espérance, la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. » Ah! C'est formidable. Ça, c'est vraiment un trait de génie de Paul, parce qu'il sait très bien ce qu'il va déclencher avec cette déclaration. Un conflit terrible dans l'assemblée du Sanhédrin, parce qu'elle est partagée entre les pharisiens qui croient à la résurrection et les sadducéens qui refusent d'y croire. Du coup, les pharisiens vont bien sûr prendre la défense de Paul, en critiquant les sadducéens qui vont s'énerver, et ça va se terminer dans une bagarre générale. Le pauvre tribun de Rome, il est consterné et ne peut plus rien faire d'autre que de ramener Paul à la forteresse et de le remettre à l'abri dans la prison. Au moins là, on ne risque pas de le lyncher. Alors, les Actes nous racontent que cette nuit-là, le Christ lui-même va venir visiter Paul. Je vous lis. Verset 11 du chapitre 23 des Actes. Le Seigneur se présenta à Paul et lui dit, « Courage, tu viens de rendre témoignage à ma cause à Jérusalem, il faut aussi que tu ailles témoigner de même à Rome. » Voilà. Ainsi, la dernière étape de la vie de Paul est en train de s'amorcer avec ce nouveau projet. Et pas le moindre, puisque à partir de Rome, presque toute la chrétienté va s'organiser dans l'avenir. Mais pour le moment, les Juifs furieux vont tenter une dernière manœuvre à Jérusalem pour essayer de tuer Paul. Ils organisent un complot en prétextant une nouvelle comparution devant le Sanhédrin. Mais on nous dit que le fils de la sœur de Paul, donc il n'était pas fils unique, Son neveu, donc, qui eut vent de ce complot, alla prévenir le tribun en douce et le guet-apens échoua. Mais du coup, le lendemain, le tribun décide de faire comparaître Paul plutôt devant le gouverneur Félix, qui a sa résidence à Césarée. Donc, on va rester dans la législation romaine et on organise le départ. Paul encadré, nous dit le texte, de 200 soldats, 70 cavaliers et 200 auxiliaires. On essaye vraiment de le protéger. Et avec une longue lettre d'accompagnement expliquant la situation au gouverneur Félix. Donc, Claudius Lysias dit entre autres ceci: « Les Juifs s'étaient emparés de l'homme que je t'envoie. Ils allaient le supprimer quand je suis intervenu avec la troupe pour le leur soustraire, car j'ai appris qu'il était citoyen romain. Comme j'étais décidé à savoir de quoi il l'accusait, je l'ai fait comparaître devant le Sanhédrin. J'ai constaté que l'accusation portait sur des discussions relatives à leur loi, mais sans aucune charge qui méritât la mort ou les chaînes. » Voilà, donc nous avons de nouveau beaucoup de similitudes avec les accusations contre Jésus. Les Romains n'étaient pas convaincus d'une quelconque culpabilité. Ils sont mal à l'aise avec ces accusations. Alors, la comparution de Paul devant Félix ne se fera que quand une délégation des accusateurs juifs arrive quelques jours plus tard à Césarée. Donc, arrive le grand prêtre Ananias avec quelques anciens et un certain Tertullus, porte-parole, avocat, et qui vont donc présenter leur réquisitoire contre saint Paul. C'est Tertullus, l'avocat des Juifs, qui s'exprime en commençant par une... Alors, ça vaut la peine, hein, une litanie de flatterie. Une flatterie éhontée quand on sait à quel point Félix fut un homme cruel et sans scrupules. Voici ce que Tertullus lui dit. « Grâce à toi et aux réformes que tu as eu soin d'opérer en faveur de ce peuple, nous jouissons d'une paix complète. Toujours et partout, excellent Félix, c'est avec une vive reconnaissance que nous accueillons ces bienfaits. Pour ne pas trop t'importuner, l'exposé sera bref. Je te prie de lui accorder l'attention bienveillante que nous te connaissons. Nous avons découvert que cet homme était une peste, qu'il provoquait des émeutes parmi tous les Juifs du monde et que c'était un chef de file de la secte des Nazaréens. » Etc., etc. Donc, on voit ici que l'accusation a eu le temps de s'organiser depuis le conflit de Jérusalem. Les Juifs se sont mis d'accord et l'accent a été délibérément mis sur, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le trouble à l'ordre public, dont ils savent que les Romains détestent ça et certainement ils ne vont pas manquer d'avoir envie d'éradiquer le responsable des désordres. Mais c'était sans compter sur la défense que Paul allait lui-même de nouveau devoir présenter au gouverneur Félix. Nous sommes donc à Césarée, où se trouve la résidence officielle des procurateurs romains de Judée. Paul est prisonnier et va devoir à nouveau présenter lui-même sa défense au gouverneur Félix. Le grand argument de cette nouvelle plaidoirie est que ses accusateurs sont bien incapables d'apporter la moindre preuve à leurs accusations. Et comme c'est assez évident, Félix refuse de prendre position. Un peu comme Ponce Pilate pour Jésus. Mais il va le maintenir en prison. Toutefois, ça sera une prison améliorée. Disons que c'est avec un régime libéral qui permet à Paul d'être entouré et aidé par ses proches qui vont pouvoir prendre soin de lui et eux vont pouvoir continuer de bénéficier de ses enseignements. Saint Luc fait certainement partie de cela, c'est ce qui lui permettra de nous laisser le récit de la vie de Paul jusqu'au dernier moment. Mais le gouverneur Félix va faire durer cet emprisonnement pendant 2 ans, faisant comparaître Paul de temps en temps pour lui poser des questions. Les historiens pensent généralement qu'il espérait surtout en tirer de l'argent. Une caution de la part des chrétiens, mais les chrétiens étaient pauvres. On sait que Félix était un homme extrêmement corrompu. C'est probablement d'ailleurs ce qui fait qu'il arrive à la fin de son mandat, et il n'est pas renouvelé, et un nouveau procurateur de Judée va arriver. Il s'agit de Porcius Festus, dont les Actes des Apôtres, chapitre 24, nous dit « Il voulait être agréable aux Juifs ». Et donc laissa Paul en prison. La première chose d'ailleurs, ou à peu près, que Porcius Festus fait quand il arrive prendre ses pouvoirs, et il descend à Jérusalem pour y rencontrer grands prêtres et notables juifs. Et évidemment, ceux-ci en profitent pour porter plainte contre Paul et demander son retour à Jérusalem pour y être à nouveau jugé. On imagine quelle rancœur. Pensez qu'il est en prison depuis 2 ans, donc il ne doit pas être très nuisible, mais la haine est toujours aussi forte. Donc Porcius Festus préfère rester prudent. Il sent bien que Paul va être mis à mort sans vrai procès. Aussi, il décide de maintenir Paul en prison à Césarée. Mais il propose aux dirigeants juifs de l'accompagner lors de son retour à Césarée pour une nouvelle confrontation. Bon, les Juifs vont donc renouveler leurs accusations contre Paul et ils sont toujours parfaitement incapables d'apporter la moindre preuve. C'est pourquoi les Actes, chapitre 25, verset 8, nous disent que Paul s'insurge en disant « Je n'ai commis aucun délit, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur ». Effectivement, il n'y a pas de preuve. Donc le gouverneur Festus tente une proposition pour satisfaire les dirigeants juifs quand même. Il demande à Paul s'il accepterait d'aller à Jérusalem pour y être jugé, si lui-même, Festus, promettait d'être présent au procès pour assurer un fonctionnement légal. Mais la réaction de Paul est immédiate, c'est non. Il sait qu'il n'a aucune chance à Jérusalem. Et de plus, son but, la mission qu'il a reçue de Jésus, est d'aller à Rome pour témoigner. Paul va donc s'écrier « J'en appelle à l'empereur ». Ce qui veut dire qu'il veut un procès qui se passe à Rome devant le tribunal de l'empereur. Il doit pourtant savoir que dans ces années-là, l'empereur, c'est Néron. Pas spécialement connu pour aimer les chrétiens. Mais nous ne sommes pas encore au pire du règne de Néron, qui fut empereur de 54 à 68. Et on situe la comparution de Paul devant Festus, là, sans doute en l'an 60. Et Paul a environ donc un peu plus de 55 ans. L'envoi de Paul à Rome est donc accepté, il y a droit, en tant que citoyen romain. Mais entre-temps, un important visiteur s'est annoncé à Césarée. Il s'agit du roi Agrippa II, fils d'Hérode Agrippa, accompagné de sa sœur Bérénice, la célèbre. Et pour ces éminents visiteurs, le cas Paul est une curiosité, un divertissement même, à ne pas manquer. Paul est donc invité à venir plaider sa cause devant eux. Tout le chapitre 26 des Actes des Apôtres est consacré à cet épisode que je vous invite à lire vous-même. C'est un résumé parfait de la vie et de la mission de Paul et surtout une belle confession de foi par laquelle Paul espère visiblement impressionner pour convaincre et même convertir ses auditeurs. Agrippa en fut même un peu ébranlé puisqu'il dit à Paul... Je vous cite au verset 28 du chapitre 26, « Encore un peu et tu vas me persuader que tu as fait un chrétien. » Donc, c'est sur le fil, il a quand même impressionné le roi Agrippa, qui va confirmer, bien sûr, au gouverneur Festus, qu'il ne voit en Paul rien qui mériterait la mort, ni même la prison. Mais voilà, c'est Paul lui-même qui a demandé un procès à Rome, et on va donc l'y envoyer avec quelques autres prisonniers, et aussi Saint-Luc, visiblement, qui va les accompagner, puisqu'il raconte le voyage, toujours en disant « nous ». C'est qu'il est là. Alors, je vous fais grâce de la traversée en bateau vers Rome, qui fut une véritable épopée. Ça dura des mois et des mois et des mois. Ils essuyèrent une violente tempête et ils firent naufrage à Malte. Mais enfin, après cette épopée, le but fut finalement atteint et Paul va atteindre Rome. Pourtant là, nous n'avons aucune trace d'un quelconque procès. À peine arrivé, on va emprisonner Paul, mais il pourra bénéficier d'un statut privilégié en tant que citoyen romain, certainement. Il aura le droit d'avoir son propre domicile et d'y accueillir qui il voudra. Simplement, il y aura là un soldat pour garder la porte et garantir qu'il ne s'évade pas. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui être assigné à résidence. Mais cela suppose aussi qu'il reçoit un soutien financier des chrétiens, car tous les frais sont à sa charge. Mais surtout, il est libre d'enseigner et de témoigner de l'évangile du Christ à Rome, et c'est tout ce qu'il souhaitait. Parmi les gens qu'il invite chez lui, il eut, comme d'habitude, tout au long de sa mission, Paul va inviter la communauté juive de Rome et déployer pour elle toute son éloquence afin de les convaincre. Il semble qu'il ait eu quelques résultats, mais pas assez à son goût, il va être très déçu. Mais enfin, après tout, n'était-il pas d'abord l'apôtre des païens ? Il va encore le confirmer. Et cette situation de semi-liberté à Rome va durer aussi 2 ans, durant lesquels la mission de Paul, finalement, pourra quand même s'accomplir, et s'accomplir avec succès. Pour la suite, après ces 2 ans, on ne sait presque rien. On a des suppositions. Fut-il libéré ? Eut-il un procès ? Il y a eu tellement d'hypothèses, je ne sais pas. Même sa mort reste une certaine inconnue. Des témoignages anciens nous laissent penser qu'il fut mis à mort après l'incendie de Rome, donc après 64, décapité, puisque son statut de citoyen romain l'exige. Il avait alors un peu plus de 60 ans. Mais son formidable chemin de foi a été le plus important des témoignages, et Paul est devenu, pour tous les chrétiens, le plus grand des apôtres.